Bonjour à tous, mardi 29 mai 2018. Il fait beau dehors, il fait chaud, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de sortir, mais faites-le juste après l'émission, après que nous ayons passé cette heure ensemble. Je me suis réfugié dans la fraîcheur du studio où je suis seul cette semaine, Jean-François. Écoutez, les aléas du bénévolat parfois et moins libre le mardi matin, je suis... Donc seul à bord, pas tout à fait seul, on n'est jamais seul. J'ai avec moi Jean-Sébastien pour s'occuper des thèmes musicaux, de la mise en onde tout simplement déjà, pour commencer. Et je ne suis pas seul non plus parce que j'ai une foule d'articles à vous lire, à vous présenter. Comme d'habitude, tout ce qui m'étonne, tout ce qui dans l'actualité me fait dire « Tiens donc, c'est intéressant, tiens donc, c'est surprenant ». Et croyez-moi, il y en a, l'actualité est riche de ces sujets-là. Ce matin, je vous propose de partir avec moi à la chasse ou à la découverte. À la chasse ou à la découverte de Nessie, le monstre du Loch Ness, qui n'en finit plus de faire parler, d'agiter les scientifiques jusqu'aux scientifiques qui se sont mis en quête de cet animal, de cette créature. Nous partirons également à la recherche de météorites dans le désert. Ben oui, on en trouve, paraît-il, par là-bas. Nous parlerons également, pourquoi pas, de la police américaine qui utilise les données ADN pour résoudre des cas. On est dans la vraie vie, on n'est pas à la télé, et l'ADN fait ses preuves. Également, si nous avons le temps, mais je pense que nous aurons le temps, nous partirons, allez, au Taj Mahal, où les singes attaquent les touristes français. C'est amusant, moi ça m'amuse. À Terre-Neuve, où il fait chaud ici, mais à Terre-Neuve où ils ont beaucoup de neige, 35 cm, difficile à imaginer là tout de suite pour nous, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne qui regorge d'insolites comme toujours. C'est dans quelques instants, dans les voies de service. Dirigeons-nous vers la Grande-Bretagne pour commencer cette escapade matinale. Le monstre du Loch Ness, faut-il encore le présenter? Il a fait l'objet de recherches, de films, d'enquêtes en tout genre. Il y a eu quelques photos qui ont fuité ici et là. Mais nous allons nous en remettre comme souvent aux scientifiques pour essayer de le trouver. Et je vous raconte leur odyssée. Des scientifiques cherchent l'ADN de Nessie, le monstre du Loch Ness, s'est tiré du soleil. Wellington, les histoires semblent aussi incroyables que le lac est profond. Pendant des centaines d'années, les visiteurs du Loch Ness écossais ont décrit avoir vu un monstre qui, selon certains, se cache dans ses profondeurs. Mais maintenant, la légende de Nessie n'a peut-être plus nulle part où se cacher. Un scientifique néo-zélandais dirigera le mois prochain une équipe internationale qui prélèvera des échantillons des eaux troubles du lac et effectuera des analyses génétiques pour déterminer quelles espèces y vivent, car il y en a une multitude. Neil Gemmell, professeur à l'université d'Otago, dit qu'il ne croit pas à Nessie, mais il veut emmener les gens à l'aventure et transmettre des connaissances scientifiques en cours de route. De plus, dit-il, ses enfants pensent que c'est l'une des choses les plus cool qu'il ait jamais faites. L'une des théories les plus farfelues est que Nessie est un plésiosaure à long cou, qui a survécu à l'extinction des dinosaures. Selon une autre théorie, le monstre serait en réalité un esturgeon ou un poisson-chat géant. Plusieurs croient que les observations sont des canulars ou qu'elles peuvent être expliquées par des bûches flottantes ou des vents forts. Monsieur Gemmell a dit que les créatures qui se déplacent dans l'eau laissent derrière elles de minuscules fragments d'ADN provenant de la peau, des plumes, des écailles et de l'urine. Il a indiqué que son équipe prélèvera 300 échantillons à différents points du lac et à différentes profondeurs. Elle va filtrer le matériel organique et en extraire l'ADN, a-t-il expliqué, en le séquençant avec une technologie créée à l'origine pour le projet sur le génome humain. Les résultats de l'ADN seront ensuite comparés à une base de données d'espèces connues. Monsieur Gemmell a dit qu'il devrait avoir des réponses d'ici la fin de l'année. J'entre dans ce projet en pensant qu'il est peu probable qu'il y ait un monstre, mais je veux tester cette hypothèse, a-t-il dit. Ce que nous obtiendrons est une très belle étude de la biodiversité du Loch Ness. Il a dit que les vraies découvertes pourront provenir de choses comme une mesure de la prévalence des espèces envahissantes. L'homme de 51 ans a dit qu'il a visité le Loch Ness à la fin de la vingtaine pendant ses vacances. Comme des milliers de touristes avant lui, il a regardé le lac en essayant d'y apercevoir un monstre. Il a dit qu'il avait d'abord eu l'idée de tester l'ADN du lac il y a quelques années et que plusieurs personnes, y compris ses enfants âgés entre 7 et 10 ans, ont aimé son approche. Graeme Matheson, le chef de la société écossaise de Nouvelle-Zélande, a déclaré que lui aussi avait visité le Loch Ness et scruté la surface de l'eau, et qu'il souhaitait la meilleure des chances à M. Gemmell. J'espère que lui et ses compagnons trouveront quelque chose, même si je pense que ce ne sera pas facile, a-t-il dit. C'est quand même un bon moyen de faire un voyage en Écosse. M. Gemmell a dit que, même s'il ne trouvait pas d'ADN de monstre, cela ne découragera pas ceux qui croient à Nessie. Il a dit qu'ils lui ont déjà proposé des théories, par exemple que Nessie puisse être en vacances après avoir regagné la mer par des grottes sous-marines cachées, ou que la créature puisse être un extraterrestre, tout simplement, et ne laisser aucun ADN. Dans notre vie, nous voulons qu'il y ait encore des mystères que nous finirons par résoudre, a déclaré M. Gemmell. Cela fait partie de l'esprit de découverte et parfois, ce que vous trouvez n'est peut-être pas ce que vous attendiez. Voilà donc pour le mystère qui est sans doute à la veille d'être éclairci, mais on n'éclaircira jamais totalement le mystère du monstre du Loch Ness. Il doit bien se cacher quelque part, je suis d'accord. Yes, autre animal un peu plus commun, celui-là, qui est chassé, alors pas chassé pour des photos, mais chassé pour être endormi, dirons-nous, pour les plus jeunes, abattu, parfois il y en a un peu trop, ce sont les ours. En revanche, les techniques pour les approcher sont parfois discutables, et cet insolite nous vient comme presque une majorité de mes insolites de la part de Monsieur Donald Trump. Il sera bientôt possible pour les chasseurs en Alaska d'appâter les ours avec du bacon et des beignes dans les zones protégées. L'administration Trump souhaitant revenir sur des réglementations adoptées sous Barack Obama. Le National Park Service a en effet présenté mardi un projet de réglementation qui annule des mesures prises en 2015. Le NPS avait à l'époque interdit plusieurs pratiques dénoncées par les associations de défense des animaux dans les zones fédérales protégées d'Alaska. Ces pratiques, bientôt de nouveau autorisées par la nouvelle administration républicaine, comprenaient notamment l'utilisation de chiens pour chasser les ours noirs et l'usage de lampes pour traquer ces animaux et leurs oursons dans leur tanière. Les appâts avaient également été interdits dans la chasse aux ours noirs et bruns. Le bacon, le gras de viande et les beignes sont souvent utilisés comme appâts, avait à l'époque rappelé le NPS, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Le NPS a annoncé aujourd'hui une proposition pour amender ses règlements concernant la chasse et la capture d'animaux dans les zones protégées d'Alaska, selon un communiqué. Cette proposition mettrait fin à des propositions réglementaires passées en 2015 qui interdisent certaines pratiques, précise cette même source. Ajoutant que le NPS souhaite harmoniser les réglementations fédérales avec les lois sur la chasse en vigueur en Alaska. Cette réglementation, publiée au journal officiel américain, mardi devrait définitivement être adoptée dans 2 mois. En avril 2017, une loi votée par le Congrès républicain était déjà revenue sur certaines réglementations démocrates, rendant notamment de nouveau possible la chasse aérienne à l'ours depuis un avion ou un hélicoptère en Alaska. L'administration Trump s'attire régulièrement les foudres des associations de défense des animaux. En novembre 2017, elle a de nouveau autorisé les chasseurs américains à importer des trophées d'éléphants tués au Zimbabwe et en Zambie. Et en mars 2018, son nouveau conseil de préservation de la vie sauvage s'est réuni pour la première fois. Il est constitué de professionnels de la chasse et présidé par un mania du charbon, le ministre de l'Intérieur, Ryan Zinke, originaire du Montana, et lui-même chasseur. Voilà donc pour ces techniques à nouveau autorisées. Moi, personnellement, ça me fait quand même penser que c'est pas juste attirer des ours avec des friandises comme ça. Si certains d'entre vous voyagent ou comptent voyager cet été en Asie, eh ben, il y a plusieurs choses dont se méfier. Il y a les bibites, bien sûr, les singes. Alors les singes, on le savait déjà un peu, on les voit dans certaines vidéos voler des affaires, voler de la nourriture notamment, mais ils peuvent être plus entreprenants et plus agressifs que ça, et deux touristes français en ont fait les frais au Taj Mahal. New Delhi, les autorités indiennes ont recommandé mardi aux touristes de se tenir à l'écart des singes après qu'un groupe de primates a légèrement blessé deux visiteurs français au Taj Mahal. Les touristes souffrent d'égratignures et marques de morsures après avoir été poursuivis et assaillis par des singes alors qu'ils prenaient des photos dans l'enceinte du plus célèbre monument d'Inde. Ils prenaient des selfies devant le Taj Mahal lorsqu'une bande de singes les a attaqués, a déclaré à l'AFP l'officier de police touristique, M. Pandey. Les victimes ont reçu les premiers soins sur place. Des hordes de singes rôdent dans le complexe du Taj Mahal et les gérants du site peinent à les empêcher de harceler les visiteurs. Ils conseillent de les éviter et de ne surtout pas les nourrir. Bien que révérés dans cette nation à majorité hindoue, les singes représentent une menace dans de nombreuses villes indiennes. Ils peuvent saccager des jardins, des bureaux et des toits, s'en prennent parfois à des gens pour voler leur nourriture. Selon leurs défenseurs, ces problèmes découlent de l'empiètement des zones urbaines sur leur habitat naturel. L'année dernière, une touriste avait été blessée en essayant de récupérer son sac chapardé par un primate au Taj Mahal. L'Inde compterait quelque 50 millions de singes tout de même, dont environ 10 000 à Agra, ville de l'iconique mausolée moghol. Selon des chiffres officiels, ils ont mordu 1900 personnes dans la capitale New Delhi en 2016. Et moi, la seule question qu'il me reste à élucider après avoir vu cela, elle serait de comprendre, est-ce que les singes ont attaqué ces touristes parce qu'ils étaient français ou parce qu'ils prenaient des selfies? Après quoi en ont-ils? Don't know what's happening. This ain't what I'm about. It's only been a week. And I'm parked outside of your house. I ain't trying to creep. Just let me in and hear me out. Cause it's about to go down. Woo! I'm not thinking straight. Since I stutter and slur in my speech, I'm gonna be your slave. You got me like a dog on a leash. Ain't too proud to beg. Your body makes me wanna believe. And I'm down on my knees. Take out all my money. Let's book a shopping trip. Maybe I could charter a jet. And I don't give a shit if I never get out of debt. I say you'll be my girl. And I promise you I'll handle with care. What you doing to me? Take out all my money. I took you to the jeweler, told you pick a ring. I took you to the dealer, told you pick a range. I took you to the parlor, spent $100 on a tattoo with your name and your face. And when all of the cash out, credit card maxed out, I'ma sell the house, baby, you're the real estate. See, I don't even stress for a sec, cause your loving is the best if I just make a bad decision. Take out all my money from the bank. From the bank, girl. Take you round the corner by the rain. By the rain, girl. You're all up in my head, but I ain't even mad. You make me wanna make a bad decision. You got me confessing like you're my new religion. You make me.
Le duo montréalais Chromeo, avec un son qui n'est pas sans rappeler Michael Jackson, Will Ferrell ou encore Bruno Mars, c'était tiré de leur album Head Over Heel avec la pièce Bad Decision.
Et ça réveille, ça fait du bien. Partons à présent aux États-Unis, pas très loin, je vous emmène, où il y a des leçons à tirer de l'actualité et de deux insolites très proches. La première s'intitule « Un Américain blessé par balle par son chien ». Un habitant de l'Iowa a été blessé par balle par son propre chien, un accident qui illustre à nouveau le danger de la dissémination des armes à feu aux États-Unis. Richard Rem, 51 ans, s'amusait mercredi, il y a deux semaines, sur le canapé, avec son compagnon à quatre pattes nommé Baloo, à qui qu'il a voulu faire descendre de son giron. Baloo a alors tenté de retourner sur les genoux de son maître, un résident de la ville de Fort Dodge. Monsieur Rem portait à la ceinture son pistolet Ruger 9 mm. J'étais sur le canapé et on faisait les fous, le chien et moi. Je le descendais de mes genoux, il y revenait en sautant, a relaté le quinquagénaire barbu au journal local. Baloo, un croisement entre un pitbull et un labrador, a semble-t-il désactivé le cran de sûreté de l'arme en l'accrochant avec son harnais, puis a marché sur la détente. La balle est partie se loger dans la jambe de Monsieur Rem. L'homme a appelé le numéro d'urgence 911 et se trouvait toujours hospitalisé jeudi. « Je me suis fait tirer dessus par mon chien », a résumé la victime. « Je n'avais jamais entendu un truc pareil », a commenté le chef de la police de Fort Dodge. « Se faire tirer dessus par son chien n'arrive qu'en Amérique », a commenté Shannon Watts, fondatrice de Moms Demand Action for Gun Sense in All America, une organisation qui lutte contre la prolifération des armes aux États-Unis. Et dans le même registre, ça c'était il y a 2-3 semaines, et bien cette semaine, les États-Unis nous ont à nouveau fait un exemple bien du danger, faut-il le rappeler, de ces armes à feu. Un Américain blessé par son arme parce qu'elle était cachée dans le four. Un Américain a été gravement blessé par balle après avoir caché son arme à feu dans le four de sa cuisine, que sa compagne a allumé en ignorant la présence de l'engin, a rapporté un journal de l'Ohio. Robin Garlock, habitant de la ville de Warren, a eu l'idée de dissimuler son revolver dans l'appareil à cuisson car il attendait la visite d'enfants, a expliqué lundi le policier Wayne McKay. Plus tard, sa compagne a décidé de cuisiner et a actionné le thermostat du four. Sous l'effet de la chaleur, l'arme a détonné une première fois. Monsieur Garlock s'est alors précipité pour récupérer l'arme brûlante dont les munitions ont explosé. L'homme de 44 ans a été blessé aux épaules par deux balles ou deux éclats de balles. « C'était trop chaud, l'arme a fait une rotation en explosant », a expliqué l'agent McKay. Contrairement à l'idée souvent avancée aux États-Unis qu'une arme servirait à défendre la vie de son détenteur, il est prouvé que le risque d'homicide est trois fois plus élevé dans les foyers avec une arme que dans les foyers sans. Nous souhaitons bien sûr un prompt rétablissement à ces deux Américains et nous leur souhaitons également de réfléchir un peu à la possession d'armes à feu. She's not a girl. Who misses much? Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. With his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust.
I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
Happiness is a warm gun. Happiness is a warm gun, mama.
si les Beatles le disent, ça doit être vrai. Happiness is a warm gun. Le bonheur est un fusil bien chaud.
Vous me surprendrez toujours, Jean-Sébastien, avec ces choix musicaux. Je découvre beaucoup de choses grâce à vous, beaucoup de paroles, de chansons tout à fait appropriées en lien avec mes sujets. C'est à se demander si vous n'êtes pas de mèche avec tous ces groupes musicaux, si vous n'auriez pas inspiré les Beatles.
On ne peut rien vous cacher.
C'est ça, j'en étais sûr. Vous avez une machine à remonter dans le temps. Une attitude un peu plus peace and love après ces histoires de gun. À moins que je ne me trompe, le 1er juillet approche et il va être temps de légaliser le cannabis ici au Canada. Eh bien, est-ce que je vous parle de cannabis, pas au Canada, une ville estonienne met une feuille de cannabis sur son logo. Une petite ville estonienne, dont le nom Kanepi veut dire cannabis, a décidé de faire de la feuille de marijuana l'élément central de son logo, a indiqué un responsable municipal. Le nom de cette ville du sud du pays est dû à l'industrie traditionnelle de la région qui, il y a quelques siècles, fabriquait de l'huile et du tissu à partir du chanvre. Le chanvre est utilisé comme matière première et n'a pas ou peu d'effets psychoactifs. Aujourd'hui, la feuille de cannabis est considérée surtout comme une drogue récréative, mais en fait, le cannabis, du type chanvre, était utilisé à de nombreuses fins pratiques depuis des années, a expliqué Andrew Semme, membre du conseil municipal de Kanepi. Il ne voit rien de mauvais dans le nouveau logo de sa ville. Nous avons quelques PME qui produisent de l'huile et de la farine biologique à partir du chanvre, a-t-il ajouté. Une boulangerie vend du pain aux graines de chanvre, tandis qu'une entreprise fabrique du béton de chanvre, un matériau de construction de qualité. Kanepi, qui était un petit village au XVIe siècle, compte actuellement environ 5000 habitants, après avoir fusionné avec d'autres localités. Pour choisir son logo, la ville avait organisé une consultation ouverte à tous les Estoniens intéressés, et quelques 12 000 votants sur 15 000 ont opté pour la feuille de marijuana. Ce choix a été entériné ensuite par la commission héraldique estonienne. Un petit article qui va peut-être répondre à la question que se posent certains. Vous voyez les dinosaures, bon, des bêtes imposantes, et certains d'entre eux produisaient des œufs. Un dinosaure lourd, des œufs, comment faisait-il pour ne pas les briser en les couvant? Mais comment s'y prenaient certains gros dinosaures pour prendre soin de leurs œufs sans les écraser, s'intitule cet article du Soleil. Eh bien, ils les disposaient tout autour d'eux et s'installaient dans l'espace au centre resté libre, selon une étude publiée mercredi. Si la plupart des dinosaures se contentaient vraisemblablement d'enterrer leurs œufs après la ponte, comme le font les crocodiles de nos jours, certains théropodes non aviaires confectionnaient des nids et s'occupaient de leurs œufs. Certaines espèces d'oviraptorosaures et toothorontiridés couvaient vraisemblablement leurs œufs, comme le font les oiseaux modernes, déclare Kohei Tanaka, chercheur à l'université de Nagoya au Japon et auteur principal de l'étude publiée dans Biology Letters. Une équipe de recherche a étudié des couvées fossiles d'oviraptorosaures de différentes sortes retrouvées en Chine pour comprendre l'impact de la taille sur le comportement d'incubation des dinosaures. Chez les oviraptorosaures, la disposition des œufs se faisait toujours en anneaux, mais la physionomie du centre du nid variait, souligne l'étude. L'espace central était petit ou absent pour les plus petites espèces d'oviraptorosaures. Puis il s'agrandissait avec la taille de ces dinosaures et allait jusqu'à occuper la plus grande partie du nid pour les espèces géantes, ajoute l'étude. Les grandes espèces d'oviraptorosaures ne devaient pas s'asseoir directement sur les œufs, elles devaient vraisemblablement se poser au milieu du nid afin de ne pas les écraser. Ces grands oviraptorosaures pondaient des œufs de forme allongée qui pouvaient mesurer tout de même jusqu'à 50 cm de long et peser jusqu'à 7 kg, précise le chercheur. Dans la mesure où ils ne s'asseyaient pas directement sur les œufs, ils n'étaient pas à même de leur procurer une vraie chaleur, mais leur attitude devait les protéger des prédateurs et des intempéries, ajoute-t-il. Les théropodes forment un vaste groupe incluant la plupart des grands dinosaures carnassiers dont le redoutable Tyrannosaure Rex, mais aussi les ancêtres des oiseaux modernes. Les oviraptorosaures étaient de tailles diverses. Le Codipteryx avait la taille d'un dindon, alors que le Gigantaroptor mesurait 8 mètres et pesait quelques 1400 kg. Avant de partir en pause, une autre petite question que vous devez vous poser, à laquelle j'apporte une réponse, question existentielle. Est-il vrai que les pieuvres ont trois cœurs ? En effet, cette curieuse petite créature possède trois cœurs, en plus d'une anatomie bien particulière. La mère céphalopode meurt peu de temps après l'éclosion des œufs de ses petits, qu'elle aura protégés en jeûnant. Les bébés doivent donc explorer le monde par eux-mêmes. Pour les aider dans cette grande aventure, Dame Nature a tout de même pourvu les pieuvres de 9 cerveaux, soit un central et un par tentacule. Ces animaux marins possèdent aussi 3 cœurs, un principal et 2 branchiaux, qui assurent une bonne pression sanguine dans leur corps. Enfin, les pieuvres peuvent changer de couleur afin de se camoufler. Avouez que ça fait quand même beaucoup de qualité pour s'en sortir. Et comme les pieuvres, battez-vous contre la vie, restez avec nous, car dans quelques minutes nous revenons après cette pause musicale. J'ai encore une multitude de sujets insolites pour vous. A tout de suite.
We'll be right back.
tiré de son premier album, Lydia Kepinski, et la pièce Andromaque.
Partons à présent à la chasse aux météorites dans le désert du Maroc, si vous le voulez bien. Une activité pour la fin de semaine, pourquoi pas, si jamais certains s'en cherchaient une. Ils arpentent le désert du sud du Maroc à pied ou en voiture tout terrain dans l'espoir de trouver des pierres tombées du ciel. Déniché à un fragment de météorite, très prisé par les chercheurs et les collectionneurs, fait rêver les nomades. C'est une question de chance, c'est comme jouer au loto, sourit Abderrahman, un ambulancier de 48 ans qui s'improvise régulièrement chasseur de météorites. Ça peut valoir plus que de l'or, jure Mohamed, un ancien professeur d'éducation physique vivant à Zagora, une ville semi-désertique du sud du royaume, à près de 700 km de Rabat. Cet homme de 59 ans s'est lancé il y a 4 ans dans cette chasse au trésor. Casquette vissée sur la tête et survêtements de sport, il sillonne les dunes et les plaines dans son pick-up à la recherche de ces résidus du système solaire. Pour identifier ses trouvailles, il se sert d'une loupe et d'un aimant très fort. Sous une chaleur accablante, Mohamed prospecte un vaste terrain caillouteux dans la bourgade M'Amid et El Ghizlan, dernière halte marocaine de la route caravanière vers la mythique Tombouctou. Dans ce paysage digne d'un western, il s'arrête devant un terrain creux qui, selon lui, laisse présager un impact il y a très longtemps dû à la chute d'une météorite. C'est un premier signe. Celui qui aime se présenter comme un autodidacte féru de science se penche et ramasse un caillou d'un noir éclatant, qu'il brandit fièrement. Depuis l'enfance, on vit entre les pierres, on a l'habitude de les toucher. Comme lui, des centaines d'habitants de la région participent à cette quête de l'extraterrestre dans les paysages désertiques d'Erfoud, Tata ou Zagora, aux côtés d'une poignée de spécialistes étrangers. Car le sud du Maroc est mondialement réputé pour ses météorites. Au moins la moitié des publications scientifiques sur le sujet sont faites sur la base de météorites collectées au Maroc, explique la géochimiste Asna Chenaoui Aoujdenan. Les zones désertiques du sud du pays sont propices à l'accumulation des météorites. Il n'y a pas de végétation, le risque d'altération est faible, décrypte cette enseignante à l'université Hassan II de Casablanca, membre du comité de nomenclature de la Meteorological Society, l'association internationale de référence. Et repérer ces fragments noirs sur le sable doré n'est pas si compliqué, une fois que l'on est au bon endroit. Les scientifiques n'ont pas le temps de quitter leur laboratoire, souffle Mohamed, le chasseur de météorites. Lui a tout le temps, grâce à sa retraite anticipée. Pour les scientifiques, ces roches venues d'ailleurs recèlent de précieuses informations sur les conditions de formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années, sur la genèse des planètes et leur composition interne. Statistiquement, une météorite sur 5 est précieuse. L'intérêt que portent les scientifiques et courtiers spécialisés a fait augmenter les prix, suscitant les convoitises des nomades, des intermédiaires et des chasseurs. D'autant qu'un vide juridique fait que les météorites ramassées au Maroc appartiennent à ceux qui les trouvent, contrairement aux législations d'autres pays qui en attribuent la propriété à l'État. Le prix dépend de la rareté de la pierre, de sa forme, de son état. Les pierres qui viennent de Mars sont très chères, parfois jusqu'à 10 000 dirhams, soit environ 1 300-1 400 dollars canadiens, le gramme, explique Mohamed. Il dit ne pas s'être enrichi quand d'autres ont fait fortune. Si plusieurs chutes de météorites ont été observées au Maroc ces dernières années, c'est la Black Beauty qui a fait le plus rêver les nomades et suscité des vocations. En 2011, les fragments de ce bolide martien tombé dans la région de Tata, à l'extrême sud du pays, ont été vendus entre 500 et 1000 dollars le gramme pour un total de 7 kilos. Abderrahman avait alors pris des congés et cherché durant 20 jours des fragments sans résultat. Il sait pourtant que d'autres ont gagné beaucoup d'argent. Un chasseur de météorites a trouvé et vendu 600 grammes de ce spécimen pour près de 1 400 dollars canadiens, assure-t-il, drapé dans une saharienne bleue la moustache fine. À partir des années 2000, tous les nomades se sont lancés dans la recherche de pierres et beaucoup sont devenus riches, raconte-t-il. La vente se fait discrètement, dit-il en expliquant ne pas accorder facilement sa confiance à qui veut voir ces pierres. Ce qu'on trouve dans les souks, ce sont des bricoles sans grande valeur, tandis que les plus belles pierres se négocient loin des regards. Les transactions se font aussi en ligne, dans les forums spécialisés, voire sur des sites de petites annonces grand public. Les plus belles pièces se vendent aux enchères, à Paris ou à New York. Assis sous une tente dans un souk de Mamid, dans l'attente de clients potentiels, Slimane sort d'une vieille sacoche quelques pierres collectées au fil du temps, et qui, de son propre aveu, ne valent pas grand-chose. « Je n'ai pas eu de chance », se désole cet homme âgé, barbe blanche et turban bleu enroulé sur la tête. « Je n'ai pas réussi à sortir de la misère avec les pierres. » Voilà, si certains d'entre vous comptaient partir en vacances dans cette partie du globe cet été, vous pourriez bien revenir avec quelques grammes d'un précieux résidu martien.
Qui faisait beaucoup de lumière, je sais de quoi ça a l'air. Oh ciel, j'ai vu autre chose qui faisait des mouvements bizarres dans les airs. J'ai besoin d'un dernier verre, puis qu'est-ce que j'ai à l'envers? Puis que chérie, faut que tu me ranges, t'auras jamais pris ta revanche demain. Oh ciel, j'ai juré voir des silhouettes dans ma chambre. Me semble, c'est pas dur à comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais comment ça sonne. Je me tiens mieux quand on me donne la prise. Oh ciel, une menace venue de l'espace. Tu sais comment ça se passe. Toute la planète est en crise. Oh, j'ai peur. C'est la fin de semaine. Je t'aime, j'ai déjà vu quelque chose de même qui se peut. Ah, alléluia, tu sais comment me prendre. Toi et ton cœur tendre, on n'a jamais rien vu comme ça. Y'a des mensonges sur les ondes, pour moi pis mon cœur sombre. Jamais rien entendu de même.
Tiré de son tout premier album qui s'intitulait Plume, c'est Karim Ouellet qu'on vient d'entendre avec bien sûr la pièce Météore.
Météore, merveilleux. Vous est-il déjà arrivé d'envoyer un message texto ou sur n'importe quel réseau social et que, faute de réseau ou faute de facture payée, je ne sais pas, il arrive quelques heures plus tard, voire un ou deux jours plus tard. Ça peut produire des situations cocasses. Eh bien, la nouvelle que je vais vous lire est une coche au-dessus quand même, car à l'époque, et oui, c'était il y a plus de 60 ans, eh bien, les messages textes n'existent pas, et c'est donc une petite lettre d'amour qui est arrivée à son destinataire avec un léger retard de 60 ans. Écrite il y a plus de 60 ans, une lettre d'amour d'une jeune fille a été découverte par une Britannique qui a retrouvé le couple, toujours marié et vivant à deux pas. Parfois, même les sucriers peuvent renfermer des trésors. C'est ce qu'a découvert la semaine dernière Lizzie Dixon, une Britannique habitant à Roche, en Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, lorsqu'elle fit accidentellement choir un sucrier chinois des années 40. L'objet, en se brisant malheureusement en plusieurs morceaux, révéla deux feuilles de papier cachées à l'intérieur. La première est une lettre d'amour écrite par Louis, L-O-U-I-E, à son futur mari Derek. La seconde, un certificat de mariage daté du 8 janvier 1958 entre, eh bien, Louis et Derek. « Désolé mon chéri, mais j'ai oublié que je travaillais jeudi après-midi, donc je ne pourrai pas venir avant 6 heures au bus à Roche. Tu viendras me chercher chez Johan, veux-tu bien, ou bien au bus à 6h-10. Désolé chéri, mais ne m'oublie pas, veux-tu, ta future femme aimante Louis. » Aussitôt, Lizzie Dixon et son amie Cathy Davis, qui lui avait offert le dit sucrier, acheté dans un magasin de charité, se mettent en quête du couple Eddie Wynne. Cathy Davis décide de poster la lettre sur un groupe Facebook local à laquelle répondent plusieurs centaines de personnes désireuses d'aider les deux amis à retrouver le dit couple. 5 heures après la publication, un membre de la famille s'est manifesté. Un de mes amis m'a contacté et a dit « Je crois que je connais leur belle-fille. Elle s'appelle Michelle Edwin et porte donc le même nom de famille que le vieux couple. » Ainsi, non seulement ont-elles appris que le couple, toujours marié, était également toujours en vie, mais qu'en plus, il vivait à quelques kilomètres de là. Retrouver ce couple, c'était extraordinaire, a confié Cathy Davis à la BBC. Invitée par les Eddie Wynne, elle s'est donc rendue à leur domicile afin de leur rendre cette lettre, vieille de plus de 60 ans, et leur certificat de mariage, dont Louis a fait faire une copie en 1961, après avoir égaré l'original, qui était resté dans leur sucrier tout du long. Mais il ne pensait pas retrouver l'original, selon Michelle Eddie Wynne. J'ai pris la route, trouvé leur petite maison, frappé à leur porte et ils m'ont invité à entrer. Louis m'a prise dans ses bras et m'a dit « Vous êtes la femme qui nous recherchait ». Je leur ai donné la lettre et ils n'arrêtaient pas de me remercier. Quand je suis reparti, j'ai pleuré durant tout le trajet. C'est le plus mignon des couples, a témoigné Madame Davis. Ils étaient simplement stupéfiés, surtout en voyant les réactions adorables des gens sur Facebook. Certains sont même venus frapper à leur porte en disant « Ah mais c'est vous, le fait que tant de gens essayent de les retrouver, ça les a dépassés », selon Michelle Eddie Wynne. De l'union du couple, qui a donc fêté cette année ses noces de diamants, sont nés 2 enfants, Kevin et Glenn. Louis fêtera la semaine prochaine son 80e anniversaire. Une autre histoire de famille un peu moins cute, mais je ne peux pas donner dans le cute tout le temps, mais dans l'amusant. J'ai rigolé en voyant cet article tiré du Monde. Un trentenaire américain se fait expulser du domicile familial par ses propres parents. Après une courte bataille devant la justice américaine, les parents d'un trentenaire ont obtenu l'ordre d'éviction de leur fils, qui était revenu vivre au domicile familial depuis 8 ans. Dans le film français, la comédie Tanguy, sortie en 2001, André Dussolier et Sabine Azéma incarnaient un couple prêt à tout pour décourager leur fils adulte, prénommé Tanguy, de continuer à vivre avec eux au domicile familial. Des coupures de courant à la violence physique, le duo de fiction avait pensé à tout, sauf à se tourner vers la justice. C'est pourtant la méthode que vient d'utiliser, avec succès, un véritable couple d'Américains, Mark et Christiana Rotondo, qui ont obtenu l'ordre d'éviction de leur fils, Michael Rotondo, devant la Cour suprême de l'État de New York, où il réside. Comme le relate la presse locale, reprise par le journal britannique The Guardian, le couple a d'abord notifié à leur fils, revenu vivre chez eux il y a 8 ans, leur désir de le voir quitter le domicile familial. Dans une première lettre, datée du 2 février 2018 et déposée auprès de la Cour suprême du comté d'Onondaga, dans l'État de New York, ils écrivent « Michael, après avoir discuté avec ta mère, nous avons décidé que tu devais immédiatement quitter la maison. Tu as 14 jours pour t'en aller, tu n'auras pas le droit d'y revenir. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour faire respecter notre décision. » Leur fils faisant la sourde oreille, les Rotondo ont alors repris leur plume, sur le conseil de leur avocat, pour lui signaler formellement qu'ils seraient expulsés sous 30 jours. en vain. Devant ce nouvel échec, les parents du trentenaire ont alors changé de tactique et tenté de soudoyer leur fils, avec 1 100 $ pour qu'il puisse se trouver un endroit où habiter. Dans une énième lettre datée du 18 février, il lui conseille aussi de faire du rangement dans ses affaires, de vendre ses objets de valeur et surtout de trouver un travail. « Il y a du travail même pour des gens avec un CV aussi pauvre que le tien », ajoute-t-il en parent aimant. Lassé de cette correspondance, Marc et Christiana Rotondo ont finalement porté l'affaire devant le juge, qui, après avoir tenté en vain de convaincre Michael Rotondo de quitter le domicile familial de son plein gré, a ordonné son expulsion. Le trentenaire, à la barbe et aux cheveux longs, qui assurait sa propre défense, plaidait pour rester 6 mois de plus chez ses parents, ces derniers ne lui ayant donné aucun motif pour justifier son expulsion et n'ayant, je cite, « jamais attendu de lui qu'il participe aux dépenses et aux tâches de la maison », selon la chaîne américaine WSTM. Il a également tenu à préciser qu'il faisait sa propre lessive. Jugée scandaleuse, sa demande a été rejetée par le magistrat chargé de l'affaire et est donc prié de quitter les lieux. Un article assez long à vous partager, tiré du Monde. On les voit souvent dans les séries télévisées, mais là, c'est bien, c'est la vraie vie. La police américaine utilise des données ADN, mais pas n'importe lesquelles, des données ADN des sites de généalogie pour résoudre des affaires de meurtre. En moins d'un mois, la police américaine a annoncé avoir résolu 2 affaires criminelles au point mort depuis des dizaines d'années grâce aux données ADN disponibles sur des sites de généalogie. En cherchant à reconstituer leur arbre généalogique, pensait-il un jour être mêlé à une affaire criminelle ? En moins d'un mois, la police américaine a annoncé avoir résolu 2 vieux mystères criminels grâce aux données ADN disponibles sur des sites web de généalogie. Les autorités américaines semblent s'apercevoir que leurs fichiers génétiques offrent moins de ressources que certaines bases de données privées. Chaque année, des centaines de milliers d'Américains envoient un échantillon de leur salive à des entreprises afin de connaître leurs origines ethniques ou se découvrir un cousin sur un autre continent. Ce business ne cesse de se développer partout dans le monde. 23andMe.com revendique plus de 5 millions de clients. Ancestry.com en compte 10 millions. Contre une centaine de dollars, ces entreprises proposent à leurs clients d'envoyer leur salive pour en extraire l'ADN. Si, comme cette journaliste de Rue 89, vous avez déjà fait ce type de test, votre échantillon a pu être comparé à celui du tueur du Golden State, accusé d'avoir assassiné 12 personnes et d'en avoir violé une cinquantaine dans les années 70 et 80. Après 40 ans d'enquête infructueuse, la police californienne a annoncé le 25 avril avoir arrêté Joseph James DeAngelo, un ancien policier âgé de 72 ans. Pour identifier le tueur en série qui leur échappait, les enquêteurs ont expliqué avoir utilisé de l'ADN prélevé sur les lieux d'un de ses crimes et l'avoir comparé au profil génétique disponible sur des sites généalogiques. Quelques semaines plus tard, cette même technique aboutissait à l'interpellation d'un suspect dans une affaire irrésolue depuis 31 ans. Arrêté à Seattle le 17 mai, William Earl Talbot est aujourd'hui poursuivi pour le meurtre en novembre 1987 de Tanya von Culenborg. Le corps de cette jeune femme de 18 ans avait été retrouvé dans l'état de Washington quelques jours après que sa famille avait déclaré sa disparition. Pour venir à bout de cette énigme, les enquêteurs ont eu recours à Parabon Nanolabs, une entreprise privée missionnée pour reconstruire le profil génétique du suspect à partir de l'ADN trouvé à l'époque. Citée par le Washington Post, la généalogiste Cici Moore explique avoir comparé le génotype retrouvé dans le van à plusieurs autres profils disponibles sur la base de données qui regroupe les profils publics de différents sites de généalogie. Identifiant dans cette bibliothèque de proches partageant d'importants parts d'ADN avec lui, elle a commencé à construire un arbre généalogique. De ses cousins issus de Germain, elle est remontée jusqu'aux arrière-grands-parents de l'homme ayant laissé son ADN sur les lieux du crime. Partant de ses aïeux, Madame Moore raconte avoir refait l'arbre généalogique dans le sens inverse, en utilisant des archives, des recensements, des journaux, des nécrologies et des réseaux sociaux. Cela m'a mené à 2 descendants des arrière-grands-parents qui s'étaient mariés, liant ainsi les 2 familles entre elles, explique la généalogiste. Et le couple n'avait qu'un seul fils, William Earl Talbot, âgé de 24 ans, au moment du double assassinat. il ne restait plus aux enquêteurs qu'à suivre le suspect, récupérer un gobelet dans lequel il avait bu et l'analyser. L'ADN correspondait à celui retrouvé dans le van du couple assassiné en 1987. La police pouvait l'inculper pour assassinat. Si de nombreux Américains se sont réjouis de l'arrestation de deux criminels présumés introuvables depuis des dizaines d'années, la mise au jour de ces nouvelles techniques d'investigation a soulevé de nombreuses questions d'éthique. Dès la révélation de l'arrestation du tueur en série californien en avril, certains utilisateurs de GetMatch ont eu le sentiment que leur vie privée avait été violée et ont décidé de supprimer leur profil du site. D'autres pensent au contraire que s'ils avaient de violents criminels dans leur famille, ils seraient heureux d'aider les autorités à les arrêter. Sans se méfier, des millions d'Américains ont mis en ligne leur ADN sur ces sites de généalogie, probablement sans la moindre idée que la police pourrait un jour s'en servir pour traquer d'éventuels criminels, leurs parents, soulèvent des experts. Le site GetMatch, qui assure n'avoir pas su que la police avait utilisé sa technologie pour ses enquêtes, a répondu que ses règles d'utilisation avaient toujours été claires sur le fait que les données pouvaient être utilisées dans d'autres buts. C'est un problème général, à la fois un manque d'encadrement et de compréhension, explique au Monde le professeur Hervé Chainweiss, président du comité d'éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Pour lui, les personnes ayant fourni leur ADN sont aussi fautives que les entreprises qui les analysent. Sur ces sites, il existe une case à cocher pour accepter ou non de partager vos analyses, sans beaucoup plus d'explications. Or, beaucoup de gens la cochent sans se poser de questions. Si vous avez la possibilité de limiter l'usage qui sera fait de votre échantillon, vous ne pouvez plus vous plaindre ensuite. Les critiques sur la réutilisation de ces données s'inscrivent dans le sillage du scandale Cambridge Analytica, rappelle la revue scientifique Nature. Les pratiques de cette entreprise britannique, qui analysait dans un but politique les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook à leur insu, ont fait émerger un débat sur la protection des données. Ces problèmes d'éthique dépassent le simple cas personnel. Si vos sœurs, vos frères, vos parents ou enfants s'adonnent à cette activité en ligne, ils compromettent votre famille pour des générations. Dans ces deux affaires criminelles, c'est en effet par le biais de proches qui avaient eu envie de faire analyser leur génome en ligne que les enquêteurs sont parvenus à remonter la piste des tueurs présumés. Si pour l'instant la médiatisation s'est portée sur l'utilisation de ces données par la police, la question est de savoir comment seront exploitées ces bibliothèques d'ADN dans les prochaines années. Dans quelle mesure les scientifiques et entreprises qui recueillent de telles informations peuvent-ils anticiper les utilisations futures et les expliquer clairement ? En France, c'est notamment pour éviter ce type de problème que les tests génétiques restent réservés à des usages scientifiques, médicaux ou judiciaires. Aux États-Unis, c'est un domaine non régulé, et tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, commente le professeur Chainweiss. Les conditions de protection des données personnelles y sont beaucoup plus légères qu'au niveau européen. L'interdiction des tests ADN pour une convenance personnelle n'empêche cependant pas la plupart des sites étrangers de proposer la livraison de kits à prélèvement en France. Le temps était un peu à l'orage hier, il peut l'être parfois en été, l'occasion pour moi de répondre à cette question existentielle. La pluie a-t-elle une odeur ? On a parfois cette impression, elle nous plaît même pour certains. Nous avons tous associé la pluie à certaines odeurs agréables, car depuis très longtemps, le temps pluvieux signifie l'hydratation et donc la survie. L'une de ces odeurs plaisantes que prend la terre lorsque la pluie tombe après une sécheresse s'appelle pétrichor. Il s'agit d'un dérivé de deux réactions chimiques. En premier lieu, certaines plantes sécrètent des matières grasses durant des périodes sèches. Lors d'une averse de pluie, ces huiles sont projetées dans les airs. Le parfum qui s'en dégage se mêle aux produits chimiques sécrétés par des bactéries au sol. Le pétrichor est donc le résultat de ce mélange. Une autre odeur associée à la pluie est l'ozone, qui donne un effet olfactif ressemblant au chlore. La pluie a donc bien une odeur. Ce qui conclut cette émission en solo... Mais non, pas en solo, comme je le disais en début d'émission. Merci à Jean-Sébastien Laliberté pour les choix musicaux pertinents, comme toujours, et surprenants. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, je serai bien là, qu'il pleuve ou non, que ça sente la pluie ou non dehors. Bonne semaine à tous, à mardi prochain.